Renew. Le dispositif gouvernemental Mon Leasing Électrique est terminé. Mais chez Renew, la voiture électrique à moins de 100 euros par mois, ça continue. Profitez de Renault Zoé E-Tech 100% électrique d'occasion à partir de 99 euros par mois. Renew, véhicule d'occasion toute marque, reconditionné et certifié. Zoé Life 52 kWh, LLD 37 mois, 30 000 km. Premier loyer 1584 euros après déduction, prime à la conversion. Voir service-public.fr. Offre à particulier jusqu'au 30 avril. Si accord Diac, voir fr.renew.auto. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo.
Le grand oral des grandes gueules.
Jean-Baptiste Dubarry, ministre des Transports, bonjour.
Bonjour à tous.
Alors, il y a un petit contentieux avec une de nos grandes gueules, avec Johnny Blanc. Voilà, autant régler les choses tout de suite, crever l'abcès. On va réécouter la séquence de Johnny Blanc qui a valu pour une de nos GG, Johnny en l'occurrence, un tweet réponse du ministre des Transports qui est avec nous aujourd'hui. Petit flashback séquence, Johnny dans son train avec le retard, Johnny énervé et il nous racontait ce qui s'était passé.
Ah ben c'est ça la SNCF mon vieux. Une petite alarme qui s'allume dans la locomotive et hop, une heure de procédure pour relancer la machine. Formidable, je te dis, il y aurait trois trains qui rouleraient, ils en feraient arriver quatre en retard, c'est infernal. Jamais vu ça.
Et ouais. Voilà, on nous l'a énervé le Johnny.
Ouais non mais c'est pénible. Et en plus elle est venue m'emmerder parce que j'avais baissé mon masque pour téléphoner. J'ai dit faire rouler ton train, après on en reparlera parce que ça m'a. Non mais c'est bon quoi.
Donc, suite à cette intervention du vous aviez tweeté, monsieur le ministre des Transports, votre courroux, votre agacement vis-à-vis de Johnny Blanc. Alors, voilà ce que vous écriviez à l'époque. Je rappelle à ce monsieur que la règle est la même pour tous dans les transports. Masque obligatoire. Merci aux agents de la SNCF qui la font respecter avec calme et professionnalisme. Vous pouvez y aller de votre mise au point tous les deux, alors.
Le petit détail que j'avais pas précisé dans l'anecdote, c'est que je suis dans un wagon tout seul.
Micro.
Je suis tout seul au fond du train et je vois arriver la contrôleuse qui vient directement sur moi et comme je la vois arriver, j'ai
tout seul.
J'ai mon masque pour téléphoner à la productrice de l'émission pour lui dire des comment ma moto-taxi retarde là, enfin ouais. Bref. Et donc, je la vois arriver, donc je remets mon masque parce que je suis quelqu'un de sérieux. Et donc, elle se croit obligée de me faire une leçon de morale comme si j'étais un enfant de 6 ans en me disant, oui, c'est un peu facile de remettre le masque quand j'arrive. Mais je me retourne, j'ai dit, écoutez, je suis tout seul dans le wagon. Effectivement, vous arrivez, je remets le masque. Mais donc, c'est ouais. Ça qui m'a énervé, c'est le fait que c'est pas parce que t'as un képi sur la tête que tu dois jouer le petit chef et le moralisateur. Je suis tout seul dans le wagon, que j'ai un masque ou pas, ça gêne qui, quoi.
Alors, monsieur le ministre.
C'est là où ça m'agace.
Non, mais moi, évidemment, l'anecdote, je la comprends. Le sujet, c'est que quand vous avez une exposition comme la vôtre, le fait d'appeler en quelque sorte ou incidemment au non-respect du port de masque, ça pouvait passer un peu pour ça et c'est évidemment pas acceptable. Et puis le deuxième sujet, je le dis, mais avec beaucoup d'amitié pour vous, les agents de la SNCF sont extraordinairement engagés depuis le début de la crise, réellement. Et 95% des trains arrivent à l'heure. Et donc c'est vrai qu'on a toujours tendance les uns et les autres à faire des raccourcis un peu faciles. Mais voilà, je voulais aussi marquer le soutien aux agents de la SNCF et des transports en général.
C'est pas des raccourcis faciles parce que ce train, je le prends toutes les semaines. Il faut dire que c'est quand même très souvent le train qui va sur l'Atlantique, sur les Paris-Bordeaux, les Paris-La Rochelle. Et on est quand même très très rarement...
On se souvient beaucoup des retards.
Ouais, oui. Non, c'est vrai. Mais
alors, il y a une vraie question parce que on va être peu à peu déconfiné avec le plan qui a été présenté le 19 mai, le 9 juin, qui sera précisé par Jean Castex dans quelques jours. Mais on a quand même du mal à s'y retrouver parce que on parle de passe sanitaire. Qu'est-ce qu'on pourra faire là dans les prochains jours, dans les prochaines semaines et cet été pour prendre un train ou un avion?
Bon, d'abord, il y a ce qu'on peut faire depuis lundi. Ouais. On n'a plus la règle des 10 km, donc on peut revoyager de façon un peu plus fluide en France et en Europe. Et d'ailleurs, ça, les Français, les gens réservent beaucoup plus. On a les deux ponts qui arrivent, Ascension et Pentecôte, et on voit quand même un afflux de réservations très fort à la SNCF.
Il n'y a même plus de place, hein, si je peux me permettre, monsieur
sur
le ministre.
Axes, ouais.
C'est absolument invraisemblable. J'ai eu la drôle d'idée de vouloir partir en week-end de l'Ascension, d'aller train du Sud. Il n'y a plus aucun train.
Tout est. Alors, c'est vrai que les destinations qui sont vraiment très prisées, c'est la côte atlantique, le sud-est et la Bretagne. Ça, c'est à chaque fois. Et on a remis beaucoup de trains. On remet quasiment 100% des trains sur ces axes. Donc, on passe en gros aujourd'hui de 4 trains sur 10 à 8 trains sur 10. Donc, on remet des trains. Et puis après, il y a le sujet des vacances, d'été, ce qu'on pourra faire. Donc là, il y a le cadre européen qu'on commence à assez bien comprendre. On aura un pass sanitaire. On est en train d'expérimenter au niveau français sur différentes destinations. On l'a fait avec Cédrico la semaine dernière, vers la Corse, vers les Antilles, de manière à avoir...
Le pass sanitaire.
Le pass sanitaire, c'est une application. Le principe, c'est que vous pouvez aujourd'hui y enregistrer vos tests PCR. Demain, vos certificats de vaccination, peut-être un certificat d'immunité sérologique. Et ça vous permet de gagner du temps, d'éviter les files d'attente, d'éviter la fraude. C'était un vrai sujet au début de cette crise. Et le sujet d'après, c'est ce qu'on a évoqué hier avec les ministres des Transports du G7, c'est de savoir comment on rouvre le trafic international. Avec les grands blocs, avec l'Amérique du Nord, les États-Unis, le Canada, avec l'Asie, avec le Japon. Donc là, on a échangé autour de principes de haut niveau sur notamment la réciprocité, sur ces sujets de passe sanitaire. Et on vise la mi-juin comme une première date à laquelle on arrivera à rouvrir un certain nombre de destinations sous réserve que la situation sanitaire soit...
Tout le monde ne sera pas vacciné cet été. Ceux qui veulent voyager ne pourront pas le faire. Ceux qui ne sont pas vaccinés ne pourront pas voyager.
Justement, l'idée, c'est ça. Hein. L'idée, c'est que vous puissiez voyager si vous avez soit été vacciné, soit un test PCR négatif, soit que vous ayez contracté la maladie et que vous en soyez guéri et que...
Vacciner deux injections ou une seule injection suffit?
Complètement vacciné. Mais c'est vrai que c'est un sujet parce qu'on dit qu'aujourd'hui, quand vous avez attrapé la maladie, vous n'avez besoin que d'une seule injection.
C'est en tout cas les recommandations de certains. Ouais. Ce qui est mon cas, j'ai été vacciné le week-end dernier, plus de 55 ans, hypertension, j'ai eu le Covid, et donc on m'a dit, non, une seule injection va vous suffire.
Donc c'est ce qu'on est en train d'essayer de clarifier.
C'est ce qui est écrit sur le certificat. Quoi.
L'idée, c'est complètement vacciné avec ces situations un peu hybrides, telles que vous l'avez dit.
Selon un sondage qui a été publié cette semaine par Elab pour BFM TV, 63% des Français sont favorables désormais à ce pass, alors je sais pas comment on va l'appeler parce qu'il y a plusieurs noms.
Travel pass,
voilà. Donc ça, on voit que l'opinion publique a évolué là-dessus.
Mais parce qu'on donne des gages, hein. Vous savez, le gage, c'est notamment sur les données que vous consentez. L'idée, c'est très simple, hein. C'est vous faites un test dans un laboratoire, les résultats du test sont envoyés à l'assurance maladie, et l'assurance maladie envoie un texto que vous recevez sur lequel il n'y aura en gros qu'une couleur. C'est vert ou c'est rouge. Donc vous présentez avec votre portable. Sur votre portable, il n'y a rien. Il n'y a pas de données médicales, évidemment. Il y a vert ou rouge. C'est vert, vous passez. C'est rouge, vous êtes réorienté. Donc c'est vraiment là-dessus qu'on a aussi essayé de mettre le paquet pour créer de la confiance. Et je vous dis, hein, la confiance, elle existe parce que sur la Corse, on a fait une expérimentation qui dure encore. On a à peu près un passager sur deux qui utilise le pass sanitaire. Donc c'est beaucoup parce que, en général, le taux de pénétration des applications, c'est pas extraordinaire, mais là, ça marche vraiment très bien. Donc, on va essayer de continuer à nouer cette confiance.
Mais est-ce qu'on peut réserver où est-ce qu'on peut commencer à réserver pour cet été? Alors,
c'est une question
difficile, voilà.
D'abord, la plupart des compagnies aériennes, pour parler que du transport aérien, font des échanges et des remboursements jusqu'à la veille. Donc, en vrai, vous prenez peu de risques à réserver aujourd'hui pour juillet ou août. Vous avez un petit peu de temps. La réalité, c'est qu'effectivement, en fonction de la situation sanitaire, de l'évolution de la dynamique du virus, on sait très bien que les choses peuvent se retourner. Mais les chiffres que nous avons actuellement, et ces chiffres, ils sont hormis l'Inde et quelques pays qui subissent vraiment des pics très très forts, les chiffres sont quand même à la décrue. C'est aussi le cas en France, et donc on espère qu'on aura un été un peu comme l'été dernier, finalement, où on avait eu 85% des déplacements par rapport à un été...
Mais on aura un été masqué dans les trains?
Je crois que oui. Je crois que oui, parce que, rappelez-vous, l'idée qui a présidé au protocole sanitaire dans les trains, c'était de se dire, le masque dans les trains, ça nous permet d'abord d'être dans un endroit confiné, dans lequel on parle pas trop. Alors évidemment, parfois on mange, on boit, on passe un coup de téléphone. Mais c'était vraiment une des protections premières, primordiales, pour s'éviter d'avoir des restrictions sur le nombre de sièges utilisables. Donc mon sentiment, et je pense que c'est responsable de le dire comme ça, c'est qu'on aura des masques tout l'été, et qu'on verra au cours de l'évolution de la crise sanitaire.
Et les sièges dans les trains?
Les sièges, il n'y a pas de restriction sur les sièges.
D'accord.
Essaie de faire, c'est évidemment que quand vous réservez, on essaye d'étaler et de faire en sorte que le plus possible. Okay. Et d'ailleurs, pour les Ouigo, on va faire en sorte de pouvoir réserver aussi ces places, ce qui n'est pas possible actuellement, de manière à donner cette fluidité.
Et pourquoi est-ce qu'on n'est pas déjà repassé à 100% du trafic SNCF? Parce que c'est pas possible tout de suite?
Parce qu'on l'a beaucoup accompagné. En gros, pour vous donner une idée, quand on confine de façon stricte, on perd 1 milliard par mois. Donc ça fait réfléchir. D'abord, ce plan, c'est quand même l'argent des Français. Hein, donc c'est
bien sûr.
Donc ce qu'on a essayé de faire, c'est d'accompagner vraiment toujours lors des confinements stricts. On a toujours mis beaucoup plus de trains que de personnes qui fréquentent ces trains. Donc en moyenne, on avait des trains qui étaient à moitié pleins. Évidemment, il y a des effets de trains complets et on retient aussi là aussi toujours que on a quelques trains complets, mais on a quelques dizaines de trains complets sur plusieurs milliers de trains.
Ouais, bien sûr.
Donc c'est vraiment
comme le retard
marginal.
Moi, je voudrais vous interroger sur la politique en général. Ouais. Il y a des élections qui arrivent, les élections qui arrivent régionales, mais aussi présidentielles, avec une abstention forte qui se dessine, comme depuis quelques années. Et j'aimerais savoir, je voudrais vous interroger sur ce qui s'est passé avec le club d'aéro.
Airways.
Voilà, exactement, à Poitiers.
Avec Madame la maire de Poitiers.
Exactement. Ouais. Et cette volonté que vous avez eue de remettre une légion d'honneur à ces présidents de clubs, comme si vous sortiez un peu un contre uno à la décision de non-subvention de ces clubs, que c'est une décision, enfin, en tout cas, parce que c'est pas, vous l'avez pas fait, mais en tout cas, vous avez proposé, que j'ai peu goûté parce que j'ai trouvé que ça vraiment que ça venait encore dégrader la politique.
Alors, non seulement je l'ai pas fait, mais je ne l'ai même pas proposé.
Ah, vous ne l'avez pas proposé, alors
l'histoire.
C'était pas ça.
Une bonne fois pour toutes, parce qu'on m'a fait parler, mais moi, je m'étais exprimé publiquement sur le sujet. Ce qui s'est passé, c'est que les propos de la maire de Poitiers ont suscité beaucoup d'émoi dans la communauté aéronautique, et même dans la communauté française
en
général.
Peut-être lesquels, parce que...
Et je rappelle que vous êtes pilote, de Poitiers, vous-même.
Oui. Alors moi, je suis totalement conflicté, parce que j'aime l'aviation, j'ai été pilote, et j'aime les transports, mais j'aime l'aviation. Je pense que l'aviation, c'est un formidable moyen d'émancipation.
Il faut rappeler ce qu'elle avait dit.
Et elle avait dit, je raccourcis un peu ses propos, mais que l'aviation était un problème pour le climat, et qu'il fallait sortir l'avion du rêve de nos enfants. Et c'est sur ce sujet-là, la politique qui se mêle du rêve de nos enfants, qu'il y a eu beaucoup d'émoi. Et j'avais trouvé ces propos, à la fois sur le fond, très contestables, et je pensais même que ça dévoilait la pensée d'un certain nombre d'écolos plus sectaire que l'autre, voilà, pour le dire, pour avoir ce débat. Moi, j'ai été saisi de demandes pour ces présidents d'aéroclubs, non pas de Légion d'honneur, mais de médailles aéronautiques. Et donc, j'ai dit que j'étudierais, comme pour toutes les demandes que je reçois, on en reçoit beaucoup quand on est ministre de demandes de décoration, j'ai dit que j'étudierais ces demandes comme toutes les autres. Ça s'est transformé en Jebari, Alou, la Légion d'honneur. Donc, j'ai vu le truc partir, je veux dire, je me suis même pas défendu. Je savais qu'on allait faire ça pendant 48 heures. Mais voilà, c'est beaucoup moins savoureux, la vraie histoire,
d'accord,
que celle qu'on a
On est presque dessus.
Mais si on revient sur le fond.
Mais sur le fond du sujet, moi je pense qu'il y a vraiment. D'abord, je pense que l'écologie a gagné en France, en Europe et dans le monde, et c'est très bien. Quand je vois les discussions qu'on a eues hier au G7 ou dans des enceintes internationales, je peux vraiment vous dire que la transition écologique, elle est à l'œuvre actuellement, et ça va à toute allure. Les États-Unis, avec Biden, ont encore pris des positions qui sont extrêmement offensives, et tant mieux. Et après, je constate qu'il y a vraiment deux écologies politiques. Il y a celle de la très grande majorité des Français, et il y a celle de quelques écologistes politiques plus radicaux qui considèrent qu'il faut organiser la décroissance et le contrôle social, et qui donc veulent s'insérer dans les rêves de
d'accord,
nos enfants.
D'accord, mais il y a un mouvement anti-avion. On veut, par exemple, interdire désormais les vols intérieurs lorsqu'il y a possibilité de prendre un train sur des distances de 2 heures. Et on voit bien que aujourd'hui, l'avion est de nouveau, d'ailleurs, un peu comme dans les années 60-70, synonyme de transport pour les riches qui font pas attention à la planète, si je résume, pour certains. Donc, est-ce qu'on en tient compte de ce mouvement? Et d'ailleurs, quelles sont les réponses à apporter? Est-ce qu'on va pouvoir voler plus propre? Est-ce que la recherche travaille
d'être... En fait, c'est intéressant parce qu'il y a deux sujets. La première façon, c'est effectivement, est-ce qu'il y a un mouvement anti-avion et que peut faire le secteur pour se décarboner, pour en gros polluer moins? Et là, je le dis, on est la France et l'Europe, avec Airbus, les mieux positionnés au monde, et Safran d'ailleurs, pas qu'Airbus, les mieux positionnés au monde pour réellement décarboner l'aviation avec une envergure ou un rayonnement mondial. Et c'est largement à l'œuvre, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais les biocarburants, l'hydrogène, l'optimisation des trajectoires de vol, tout ça est bien connu. Après, le sujet, c'est est-ce que c'est un mouvement anti-avion ou est-ce que c'est un mouvement anti-activité humaine, anti-tout? Moi, je prends toujours l'exemple du numérique. Aujourd'hui, l'avion, c'est 2,5% des émissions de gaz à effet de serre. Le numérique, c'est 5%. On dit qu'avec la croissance du numérique, dans 10 ans, en 2030, c'est entre 15 et 20%. Numérique, pour moitié, c'est streaming. Pour moitié de la moitié, c'est porno. Vous voyez, si vous voulez avoir une empreinte carbone, une réduction de l'empreinte carbone assez rapide, on sait comment faire. Ce que je veux dire par là, c'est que quand vous commencez à avoir des propos un peu autoritaires sur les libertés des gens, vous mettez des quotas carbone pour prendre l'avion, vous arrivez très vite à la fin à contrôler de façon très très forte les libertés individuelles des gens. Et c'est ça, en sous-jacent, que recelaient les propos de la maire de Poitiers. Je ne sais pas si elle le pense comme ça, si elle le vit comme ça. En tout cas, le danger, il est celui-là. Et certains défendent ça, de façon extrêmement sectaire et autoritaire. Et moi, je les conteste.
Johnny Blanc, pardon.
Moi, je voulais vous interroger sur la norvégienne, cette compagnie aérienne donc norvégienne qui a fermé donc à Paris. Et aujourd'hui, il y a 300 salariés qui sont sur le carreau, qui n'ont pas été licenciés. Personne ne donne de nouvelles. Donc, c'est des gens qui sont bientôt à la rue parce qu'ils peuvent plus payer leur loyer, ils peuvent pas payer leurs factures. C'est une entreprise à qui l'État français a quand même donné à peu près 8 millions d'euros de chômage partiel. Et j'ai du mal à comprendre comment on peut laisser 300 salariés comme ça dans le flou. Et comme ils sont pas licenciés, ils peuvent pas s'inscrire à Pôle emploi. Enfin, ils peuvent rien faire, quoi.
Bien sûr, on connaît bien le sujet. J'ai écrit au ministre norvégien il y a quelques jours. En fait, ce sujet norvégien, c'est un sujet plus global. C'est le sujet de la non-régulation sociale du transport aérien. Le cas le plus emblématique, c'est Ryanair et quelques autres qui, en fait, depuis 10 ans, sont d'ailleurs les grands gagnants de ces crises, respectent plus ou moins les règles européennes, font payer leurs pilotes pour leur formation, les payer parfois au lance-pierre pendant quelques temps, bref, qui ont optimisé violemment la non-régulation sociale du transport aérien. Donc nous, quand on a eu ce moment avec la commissaire européenne Vestager pour dire on va faire des plans de relance, on va subventionner ou en tout cas soutenir très fortement certaines compagnies aériennes, moi ce que je lui ai dit c'est que c'était hors de question que le trafic aérien reprenne de la même façon qu'avant. Sinon vous aurez deux choses, vous aurez effectivement le transport aérien pour les riches d'un côté et le super low cost avec des billets à 10 euros qui vont continuer à traumatiser les travailleurs du secteur. Donc ça veut dire que ce moment de l'après-crise, il doit aussi servir à réguler beaucoup plus fortement les choses sur le plan social.
Vous n'êtes pas candidat au régional ?
Non.
Parce que là, il y a des ministres qui s'engagent.
Et moi, j'avais candidaté à la candidature. Donc, c'est encore plus simple. J'avais candidaté contre Geneviève Darrieussecq, ou en tout cas à côté. Ah, et c'est elle qui a été choisie. Donc, vous voyez, je vis les choses.
Et alors, votre collègue Dupond-Moretti va aller dans le Nord ?
J'ai essayé de le joindre juste avant pour avoir des informations fraîches pour vous, mais il va être occupé. Donc, vous voyez, je crois qu'il va s'engager.
C'est une bonne chose ?
Moi, je vous dis vraiment ce que je pense. Je pense qu'Éric Dupond-Moretti, c'est quelqu'un de très habité, de très politique. Il a une pensée sédimentée par son histoire personnelle, par ce qu'il pense de la société. Donc, je pense que c'est un vrai homme politique. Et il a envie, visiblement, d'avoir des engagements de campagne. C'est toujours exaltant, des campagnes électorales. Donc, je ne sais pas quelle sera sa place, mais
comment vous
je pense qu'il aura envie.
Vous sortirez si, en fin de compte, Dupond-Moretti n'est pas élu, qu'il arrive à faire perdre Bertrand et que le Front National prend le pouvoir? Comment vous vous justifierez par rapport aux électeurs?
Non, mais je pense qu'il y a deux sujets. Il y avait le sujet de son engagement à lui personnel et puis il y a le sujet effectivement de la stratégie.
On a du mal à suivre. La République En Marche. C'est dernier temps, parce que pour compléter ce que dit Johnny, dans le Sud, si j'ai bien compris, il fallait s'allier à Muselier pour faire barrage au Rassemblement National. Et dans le Nord, on met une candidature qui va sans doute affaiblir celui qui peut faire barrage au Rassemblement National.
Moi, je pense des choses de façon assez simple. En tout cas, j'essaie de simplifier la pensée. Il y a des présidents de région avec lesquels nous avons bien travaillé. Renaud Muselier, c'est le cas. On a bien travaillé avec lui depuis deux ans. On a signé des accords sur les routes, sur les petites lignes ferroviaires. Enfin, donc, concrètement, c'est vrai que c'est un des présidents de région, mais il y en a d'autres avec qui on a bien travaillé. Après, là, vous parlez du jeu des partis. Moi, ça fait très longtemps que je pense que les partis historiques sont délabrés, pour ne pas dire, sont des astres morts. Et je pense que cette nouvelle séquence illustre assez bien que les partis à gauche et à droite, les partis historiques, parce qu'ils n'ont pas su se régénérer sur leur pensée, sur leur idéologie, sur leur pratique, ils ont fini par vivre de leur division. Donc on peut dire que, on peut tout à fait tenir l'hypothèse que c'est Macron qui a massacré ses partis. Et moi, je crois pas. Je crois que ces partis n'ont pas réalisé qu'ils étaient en train de devenir des astres morts et qu'aujourd'hui, on débat beaucoup, beaucoup des coulisses et des présupposés et des possibles scénarios à multiples bandes. Un vrai sujet, c'est que ces partis politiques n'ont jamais fait leur aggiornamento. D'accord avec ça?
On peut pas nous empêcher de penser quand même que Xavier Bertrand est un candidat déclaré à la présidentielle, que c'est quand même un peu l'homme à abattre dans le Nord. Donc,
Bertrand, il passe son temps à vomir sur le président.
Il a dit qu'il était ce matin encore qu'il était destructeur, Emmanuel Macron.
Bertrand, enfin, ça fait très longtemps qu'il a. Xavier Bertrand, il a été élu par tous les partis politiques en 2014.
Oui, bien sûr.
Tous les partis coalisés 2015. Pour faire obstacle au Front National de façon très républicaine. La gauche comme la droite, etc. Qui ont refusé leur siège à l'époque. C'est-à-dire qu'ils n'ont même pas su dans l'opposition. Et Xavier Bertrand, depuis un an, il vomit sur à peu près toutes les oppositions. Il se présente comme le parangon de vertu, le sauveur de la République. C'est un peu gros, quoi.
Non, je pense que les arrière-pensées présidentielles, elles sont dans tous les camps. Elles sont probablement du côté du président de la République, mais elles sont aussi du côté du Rassemblement National, puisque Marine Le Pen va être candidate au départemental, et certainement aussi de Xavier Bertrand. Mais moi, ce que je regarde, je l'ai dit tout à l'heure d'ailleurs, c'est qu'on ne parle pas assez, dans les Hauts-de-France, dans le Sud aussi, des sujets régionaux. Par exemple, le sujet des transports, qui est la première compétence régionale, personne n'en parle. Je serais, moi, personnellement incapable, j'habite en Ile-de-France, de savoir ce que veut dire Pécresse ou ses adversaires veulent proposer. Quoi. Et c'est ça qu'on peut regarder.
Mais en fait, là, moi, je
m'attache à ce que
vous dites, c'est sur le...
Oui, il n'y a pas de campagne. Voilà.
Ouais, c'est compliqué. En fait, ouais. Parce qu'il n'y a pas de débat de fond. Or, ces sujets, évidemment, ils sont complexes. Et moi, je pense qu'un des grands sujets de la campagne 2022, c'est possiblement le retour de la France puissance industrielle. Enfin, c'est des sujets complexes, mais extrêmement structurants sur des sujets énergétiques sur 10-20 ans. Moi, je vous mets au défi de faire des émissions sur l'énergie qui intéresse les Français. Et c'est dommage, parce que je pense que l'avenir de la France se joue principalement sur ces grands sujets complexes, mais qui sont extraordinairement structurants et qui sont derrière de l'emploi localisé, des compétences et de la puissance géopolitique. Donc de la capacité aussi à peser.
Si vous me permettez, à propos de souveraineté, je reviens sur l'avion, mais on est quand même une industrie aéronautique très puissante en France, Airbus, Safran, etc. Elle va super mal. Air France aussi, d'ailleurs. Vous avez beaucoup aidé ces entreprises. Mais quand même, il y a des questions de fond qui vont rester posées par la suite, parce que peut-être que le trafic aérien va reprendre, et moi je le souhaite, parce que c'est un œuvre de liberté. Mais on va arrêter d'aller faire des conseils d'administration à New York en avion, et peut-être qu'on voyagera moins, et peut-être de façon différente. Donc comment est-ce qu'on va faire pour tous ces emplois et cette industrie?
Bon, d'abord, l'aéronautique européenne va mal, mais c'est vrai aussi du bien cas sûr, américain. Même. Boeing va plutôt pas très bien, et donc le chaos est assez mondialement partagé de ce point de vue-là. Après, je pense que oui, il va y avoir des transformations. Notamment, d'abord, il va y avoir des faillites, malheureusement. On va avoir une consolidation du secteur, donc moins de compagnies aériennes, donc un renchérissement des prix, très probablement. Et puis, on aura effectivement moins de voyages d'affaires pendant un temps. Est-ce que ça durera un an, deux ans, trois ans? On ne sait pas, mais certainement qu'il y aura, de ce point de vue-là, Zoom, Teams et les autres ont gagné, et il y aura moins de voyages d'affaires. Donc, ça va vraiment poser la question du modèle économique des compagnies aériennes. Donc, moi, je pense que sur des sujets stratégiques, et l'industrie aéronautique est stratégique, parce qu'elle est aussi très liée à l'industrie militaire de défense, on a un intérêt à faire en sorte que ces industries se transforment, et très largement se transforment vers le développement durable, et après puissent continuer à rayonner. Mais ça veut dire que pendant un an, deux ans, on a encore ces efforts qui sont importants.
Merci Jean-Baptiste Gibari, ministre des Transports. Merci de passer voir les GG, les grandes gueules.